Aujourd'hui, le numérique a profondément modifié notre façon de nous informer et d'enseigner. Avec l'apparition des plateformes de streaming, nous avons la possibilité de choisir des contenus et des thématiques ciblées, et cela se reflète dans nos pratiques pédagogiques. Le podcast est devenu un outil d'apprentissage innovant permettant aux étudiants de développer des compétences variées. Mais en quoi ce média constitue-t-il un projet d'apprentissage et d'évaluation en soi? Comment les étudiants peuvent-ils s'approprier cet outil pour mobiliser les compétences précieuses? Alors pour en parler, plusieurs intervenants nous accompagnent aujourd'hui.
Bonjour, Corinne Bonnemoy, formatrice à l'INSPE.
Éric Collard, formateur en didactique des sciences à l'INSPE.
Bonjour, Aurélie Giry, ingénieure pédagogie stagiaire. Donc aujourd'hui, nous avons fait le choix de cette présentation pour vous plonger dans l'univers du podcast. Et vous voyez ici donc notre matériel de web radio. Bien que nous soyons en direct, les contraintes sont similaires. L'organisation de la parole, la clarté, la cohérence. Et si cet enregistrement est conservé, ben, il deviendra un podcast.
Alors nous allons maintenant diffuser un extrait d'un podcast réalisé par des étudiants de licence 3 des sciences de l'éducation dans une UE de langage scientifique et technique. Alors je vous invite à repérer les compétences qu'ils ont dû développer pour pouvoir réaliser ce média. On écoute.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Vénus Science, votre puits de connaissances. Aujourd'hui, on parle d'apesanteur avec Chloé et moi-même Maëlys, ainsi que notre invité spécial, le professeur Hall, un expert en sciences et spécialiste en apesanteur.
Bonjour, c'est un honneur d'être invité ici.
Bonjour Maëlys, bonjour professeur.
Bonjour Chloé. Donc professeur, parlez-nous de l'apesanteur.
Alors, avant de parler de l'apesanteur, on doit d'abord parler de la loi de gravitation de Newton et surtout la définir. Donc cette loi stipule que toutes les particules de l'univers s'attirent entre elles en fonction de leur masse et la distance qui les sépare. Dans ce cas, l'humain est attiré par la Terre. Lorsque l'homme est sur Terre, celle-ci offre un obstacle à la chute de l'humain et renvoie une force égale à celle exercée par l'homme sur la Terre, ce qui lui donne une sensation de poids. C'est ceci que nous appelons la pesanteur. Donc d'abord un petit peu d'étymologie. Apesanteur vient du mot pesanteur que nous venons de définir et du préfixe a qui signifie l'absence de dans un mot. J'imagine que maintenant vous avez une idée de sa définition.
C'est quand il n'y a pas de pesanteur et que la Terre n'exerce aucune attraction sur une personne ou sur des objets.
Donc nous ne sommes plus attirés par la Terre ou par n'importe quelle planète ?
C'est presque ça. La pesanteur, c'est l'absence de sensation de pesanteur.
J'ai vu sur internet qu'il y avait un truc qui s'appelait le vol en 0G.
Mais non.
Mais si.
Si. Et le vrai nom, c'est le vol parabolique. Et c'est le seul moyen de créer une situation de pesanteur pendant une vingtaine de secondes. Bon, ça coûte un peu cher, c'est quand même 6000 euros.
Ah oui, quand même.
6000 euros.
C'est beaucoup, mais en même temps, c'est une expérience à vivre.
Ouais, je pense que c'est incroyable. Mais merci, professeur, pour toutes ces précisions sur la pesanteur.
De rien.
Et sur cette découverte sur le vol parabolique.
Avec plaisir.
Merci à tous. Nous nous retrouvons bientôt sur Vénus Science pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine.
Alors, comme vous l'avez entendu, ce projet implique les étudiants dans une production authentique, ce qui favorise a priori le développement de plusieurs compétences. Alors, en quoi la production d'un podcast constitue-t-elle une situation d'apprentissage et d'évaluation, Corinne ?
Lorsqu'on produit un podcast, ça mobilise plusieurs compétences essentielles. La plus évidente qu'on entend, très clairement dans l'extrait qui a été diffusé, c'est l'expression orale, le fait de formuler de façon claire, intelligible ses idées. Mais du coup, en amont, c'est la capacité de rechercher, sélectionner, vérifier les informations. Donc là, on est pleinement dans l'éducation aux médias à l'information. Donc il faut savoir identifier les sources fiables. Il faut choisir un angle de traitement aussi du sujet qu'on va développer. Et donc ce projet, il favorise le questionnement sur le respect des règles éthiques. C'est important quand on va publier quelque chose de se poser la question si tout peut être dit. Ça pose aussi la question de l'adéquation entre la formulation de son discours et son public. Est-ce qu'on a affaire à des spécialistes ? Est-ce qu'on a affaire à des novices ? Et puis on l'entend bien aussi dans l'extrait, c'est que c'est vraiment un travail d'organisation, un travail d'équipe. D'ailleurs, Éric, toi, tu l'as utilisé, le podcast, dans le cadre de tes enseignements en physique, et plus précisément pour évaluer tes étudiants. Est-ce que tu peux nous développer les avantages de cette modalité dans l'évaluation ?
Effectivement, c'est une modalité d'évaluation qui pousse les étudiants à développer leur autonomie et à combiner plusieurs compétences. C'est-à-dire, je recherchais là une situation authentique de formation qui les pousse à faire des recherches, à développer une expression, de l'analyse, Et donc, ça a permis finalement que les connaissances ne soient pas simplement restituées pour un seul destinataire, le formateur, mais à produire des connaissances qui seraient diffusées vers l'extérieur pour qu'elles puissent en fait être vérifiées, entendues. Et donc, d'une certaine façon, ça a impliqué beaucoup plus facilement les étudiants dans une modalité d'évaluation qui finalement changeait par rapport à des évaluations habituelles. Et on peut se poser d'ailleurs la question de pourquoi cette méthode de podcast dans l'enseignement, hein, qu'est-ce que ça peut apporter d'autre que cela?
Alors déjà, les podcasts, en fait, ils reflètent les nouvelles façons dont les étudiants s'informent. Ils sont à la recherche d'un contenu précis et sur mesure. Ils ne s'exposent plus, en fait, à un flot d'informations diffus, comme lorsqu'on allume la radio et où finalement, on écoute ce qui se diffuse à ce moment-là. Eux, ils vont vraiment cibler. Ils cherchent de façon volontaire, ils sont consommateurs à titre personnel de podcasts, donc du coup ça leur parle. Et construire à son tour un podcast, c'est apprendre à structurer l'information. Donc ça c'est un atout dans de nombreuses situations professionnelles. On l'entendra dans un témoignage qu'on va écouter juste après. C'est l'idée aussi que tout au long de la conception du podcast, il faut cibler le contenu mais faire des choix formels. Optimiser son discours pour qu'il soit concis, précis, intéressant. C'est-à-dire il va falloir garder l'auditoire. Donc c'est apprendre à délivrer un contenu oral de qualité. Et ça c'est un exercice incontournable pour des étudiants qui se destinent donc majoritairement à l'INSP à devenir enseignants.
Alors effectivement, nous avons interrogé quelques étudiants sur leur ressenti après qu'ils aient réalisé un podcast. Voici leur témoignage. On écoute.
Dans le cadre de la licence 3e année de sciences d'éducation, vous avez été amené à utiliser les podcasts et surtout à produire un podcast dans le cadre de l'UE 509.
Oui.
Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Eh ben, c'était une idée plutôt sympa parce que du coup, on a découvert cette idée de faire un podcast qui change de toutes les présentations PowerPoint qu'on pouvait faire, etc. Donc, c'était super simple en vrai d'utilisation. Et puis, vous nous avez expliqué, donc on était bien guidés.
C'était assez chouette. Ça permettait, ça permettait de s'entraîner à l'oral et aussi de pouvoir s'entraîner sur une console et explorer de nouveaux dispositifs, de nouveaux outils pour produire du contenu. C'était assez chouette et puis ça permet d'être aussi créatif. On pouvait moduler un peu comme si on était à la radio notre émission et le faire aussi à notre image ou à l'image du groupe et avoir un autre point de vue que si c'était à l'écrit par exemple. Une fois qu'on arrive à maîtriser l'outil et à savoir s'en servir, c'est c'est très chouette. Ça a permis de développer une nouvelle manière aussi de travailler puisque finalement on doit condenser un nombre assez important d'informations et ça change aussi le modèle de communication puisque c'est même plus une présentation devant une classe mais ça doit être une présentation sur un fichier audio donc il doit être assez clair et concise et ça nous demande aussi de la rigueur par rapport à notre oral.
Alors Aurélie, vous avez suivi de nombreux projets de podcast avec les étudiants de l'INSP. Comment avez-vous favorisé l'appropriation de ce dispositif par les étudiants? Pouvez-vous nous dire plus sur l'implication et sur la manière dont vous avez organisé ce projet?
Oui, alors tout d'abord, on a facilité l'accès aux ressources matérielles. Donc nous avons deux packs de matériel web radio, comme vous le voyez ici. Un pack dans une petite salle labellisée en studio d'enregistrement. Et l'autre pack qui est portatif. Il y a aussi des ressources pédagogiques à travers un espace Moodle auto-formatif dédié qui permet à chacun de s'approprier la démarche. On peut y trouver plein de choses, hein, des tutoriels, des éléments réglementaires, des ressources audio libres de droit, tout ce qu'il faut pour fabriquer un podcast. Et très rapidement, les enseignants ont eu envie de s'emparer de ce dispositif pour proposer à leurs étudiants de produire des audios. Ils ont été appuyés par Mickaël Touzé, l'ingénieur pédagogique de l'INSPE, ses stagiaires, Zeyna, Kerala et moi-même, qui avons travaillé conjointement sur une méthodologie d'intégration de ce média podcast au cœur des enseignements. Tous ces acteurs ont donné de leur temps pour intégrer cette démarche en accompagnant les étudiants dans la prise en main du matériel pour qu'ils deviennent autonomes et s'approprient pleinement.
Alors, au terme de ces 3 ans de déploiement, quel bilan pouvez-vous en faire aujourd'hui? Quelles sont les perspectives?
Eh bien, c'est vrai que les étudiants ont rencontré le dispositif dès la N2. Donc ça permet de capitaliser pour les années futures, car nous aurons des étudiants autonomes en N3 et puis en master, ce qui leur permettra également de monter en compétences. Aujourd'hui, ce dispositif fait partie de notre environnement de travail à l'INSPE. Depuis 3 ans, plus de 200 podcasts ont été réalisés par des groupes d'étudiants dans toutes les formations de type licence, master de l'INSPE dans différents contextes. Et il reste encore bien sûr des questions à résoudre, notamment la diffusion et la valorisation des productions des étudiants. À qui diffuser ces podcasts, par quel biais, comment? Et bien sûr, notre idéal serait d'avoir une radio podcast de l'INSPE qui pourrait être gérée par des étudiants et qui fonctionnerait de manière autonome. Et ça deviendrait un outil d'expression sur des thématiques éducatives très intéressantes.
Bon, alors comme vous venez de le voir, ce format de podcast que nous illustrons aujourd'hui en direct devant vous est l'un des moyens pour engager les étudiants dans un apprentissage actif. Il permet d'allier recherche, création, diffusion de contenu, tout en développant des compétences. Alors, nous espérons que cette présentation vous a aidé à mieux comprendre comment cet outil peut être intégré dans un cadre pédagogique universitaire. À présent, nous aimerions ouvrir la discussion avec vous sur ce que vous venez d'écouter, d'entendre, même vous raconter vos propres expériences avec l'utilisation du podcast dans l'enseignement. Je vous remercie. Cette intervention a été réalisée grâce à la participation des étudiants de N2 Sciences de l'Éducation de l'INSPE de Chamalières qui ont bien voulu nous prêter leur voix. Le support sonore musical est issu du compositeur CyberSDF disponible sur la plateforme de téléchargement de musique libre et gratuite Au bout du fil. On est à 11h42, on peut pas...